travaillé à 13 ans et demi, j'étais très jeune. Et pour moi, sortir de ma condition sociale, le seul moyen, c'était d'ouvrir des coffres-forts, de prendre de l'argent où je considérais qu'il y en avait trop.
Bonsoir, bienvenue à La Courte Échelle, émission anticarcérale tous les dimanches de 18h, de 19h30 à 20h sur Radio Galère 88.4 FM. Si vous êtes en tôle, vous pouvez nous écouter depuis les Baumettes, le CRA de Marseille, le PM de la Valentine, dans tous les hôpitaux psy de l'APHM autour de Marseille, à Luynes, au CD de Saône-Provence, au CD de Tarascon et à la centrale d'Arles, on ne sait pas trop, ça capte pas toujours. N'hésitez pas à nous tenir au courant si vous nous entendez. Que vous soyez en tôle ou si vous avez des proches qui sont en tôle, vous pouvez nous écrire à La Courte Échelle, Radio Galère, Friche de la Belle de Mai, 12 rue François Simon, 13003 Marseille, ou nous contacter à la-courte-échelle sans accent, @riseup.net. Je répète, la-courte-échelle@riseup.net. On vous répondra avec grand plaisir. Vous pouvez aussi nous contacter en direct au 04 91 08 28 10. 04 91 08 28 10. Donc aujourd'hui en studio, il y a Jojo.
Salut.
Greg.
Salut.
Et en bocal, il y a Amy.
Salut.
Et moi, Cécile. Donc, il y a quelques jours, Serge Livrosé est mort. C'était un ancien prisonnier et militant anticarcéral. On vient de l'écouter dans un extrait du film « La mort se mérite » de Nicolas Drolle aux éditions Furax. Ce soir, on va parler de sa vie, ses idées, sa déterre autour d'extraits piqués dans le film. On va aussi commencer par parler des conditions sociales dans lesquelles il a grandi jusqu'à sa première incarcération, puis de la fondation du CAP, Comité d'Action des Prisonniers, et enfin des diverses analyses qu'il a tirées de tout ça. On fera un petit point bref ensuite. Voilà. Bonne écoute.
Pourquoi est-ce que la société ne m'a pas permis, lorsque j'avais 13 ans et demi, 14 ans, de me donner les mêmes chances qu'à tout le monde? J'aurais prouvé que j'étais capable. J'aurais jamais fait délinquant. C'est en ça que j'en ai voulu à la société. Et que je lui en veux toujours. Pas non plus pour moi maintenant, puisque je m'en suis tiré. Mais pour les autres. Et c'est pour ça que j'ai choisi de me battre politiquement. Parce que je crois que c'est la seule solution.
Ma mère étant prostituée, elle allait travailler la nuit dans les bordels. Et moi, à l'âge de 9 ans, 9, 10 ans, après que ma mère me faisait faire la prière à genoux, elle partait travailler, mais moi je ressortais derrière elle. Et je ressortais avec des voyous, avec des jeunes voyous comme moi. Donc j'étais livré à moi-même très, très jeune, très tôt. Alors, convaincu que je sois d'autre que ce que je suis, un révolté finalement, antagoniste au système, toujours en train à l'affût de la façon dont on va me baiser, tu vois. Moi, dans mon idée, dans mon esprit, je suis fait pour être baisé, tu vois. Et c'est, je le vis comme ça, ma vie, je l'ai vécu comme ça. C'est comme ça que je suis une voleur de gens qui avaient les moyens de l'être.
Donc on vient d'écouter toujours Serge Livrosé qui parlait de sa condition sociale, son enfance. C'est extrêmement important de revenir là-dessus parce qu'en fait ça a complètement influencé sa manière d'aborder la vie, mais aussi en fait sa pensée, toute sa construction, en fait tous ses engagements, etc. sont extrêmement liés à tout ce qu'il a vécu aussi en fait dans son enfance. Bah, comme il a raconté, il est issu d'un milieu très populaire, il était que avec sa mère, son père n'était pas là. Sa mère était prostituée et lui, donc, il a commencé à travailler extrêmement tôt, à l'âge de 13 ans. C'était du travail non déclaré, il était quasiment pas payé, et ça, sous prétexte de l'apprentissage. Et donc, assez vite, en fait, il a assez vite tourné, comme il le dit hein, lui-même dans l'engagement, il a assez vite tourné vers ce qu'on appelle la petite délinquance, lui, il appelle ça la délinquance alimentaire. C'est en fait un voler pour pouvoir avoir un peu plus de quoi vivre. En fait, c'était au départ du vol de besoins. Et par exemple, donc, ben, il commence ces choses-là toujours à petite échelle, mais il raconte notamment dans son livre De la prison à la révolte son premier vol de rétroviseur parce qu'il avait donc un vélo moteur. Son premier vol de rétroviseur parce qu'il en a besoin et il n'avait pas l'argent pour, malgré le fait qu'il travaillait à plein temps, il n'avait pas l'argent pour pouvoir s'acheter ça.
À 16 ans, à peine, j'en avais déjà ma claque de cette société, où je me sentais promis à une mort lente, à une vie de commis obéissant et désabusé. Mais voilà, personne ne m'avait laissé entrevoir le moindre espoir de changement. Je croyais presque être le seul à ressentir cet écœurement pour l'existence qui me guettait. Alors, le jour où j'en ai eu vraiment assez d'être berné, exploité, transformé en larve, j'ai agi de la seule façon qui m'est venue à l'esprit, en franc-tireur. J'avais besoin d'un rétroviseur pour mon vélo moteur. Je suis entré dans un grand magasin, j'en ai pris un, et je suis sorti sans autre forme de paiement. C'était simple. Au point que je me demandais pourquoi j'avais attendu si longtemps, comment l'idée de ce premier larcin m'est venue à l'esprit, je ne saurais le dire. J'avais besoin d'un rétroviseur. Je n'avais pas d'argent pour me le payer, je l'ai donc volé. Raisonnement simpliste, j'en conviens. Mais c'est le seul qui me paraît sain. On me rétorquera que ce n'est pas un acte normal, et qu'il fallait tout de même que je fusse légèrement détraqué, psychomoteur attardé, immature et le reste, pour avoir la pensée de le commettre. C'est possible. Et je n'étais certainement pas très fier de moi à l'époque. D'ailleurs, si j'avais eu les moyens de l'acheter, ce rétroviseur, on peut être assuré que je ne l'aurais pas chapardé. Bref, il n'en reste pas moins que j'avais fait là une chose anormale. Que dire? Que répliquer à cela? Rien. En ce temps-là, j'aurais fait mon mea culpa plutôt deux fois qu'une. Aujourd'hui, je réponds à mon geste anormal en demandant simplement s'il était plus normal de me donner 700 ou 800 francs par semaine pour 48 heures de vrai travail. Mais si tous les apprentis se mettaient à voler, où irions-nous? Oui, monsieur. Où irions-nous si tous les apprentis qui gagnent à peine de quoi s'offrir le cinéma se prenaient à voler, en sachant pourquoi et en osant le crier bien haut? Ils deviendraient tout bêtement inexploitables. Parfaitement. Je vois que vous m'avez compris. Vous concevez que ce ne sont pas des choses à dire. Si vous avez volé, ce n'est qu'un détail, c'est qu'un détail ne tourne pas rond en vous. Admettez-le et nous ferons en sorte que la justice vous soit clémente. Non, je me refuse d'entrer dans ce jeu diabolique. Je persiste à considérer ce larcin comme une réaction logique et saine. Amorale, peut-être, mais saine. Plus saine que la conduite de mon patron envers moi et, en tout cas, pas plus amorale.
Tu fais bien la voix du méchant juge. Donc voilà, là il racontait un peu toute sa logique du vol, qui est en fait déjà un acte de révolte. Ça, c'est un truc qui est central, on reviendra dessus tout à l'heure. Ce qui fait qu'il va commettre un premier cambriolage où il va être pris un peu plus tard, quand il sera à l'armée, avec un pote de l'armée, il va cambrioler. Il va faire un mois de prison à Rion, près de Clermont-Ferrand, et il va prendre un mois de détention provisoire et deux ans de sursis. Ensuite, comme il était absent pendant un mois, puisqu'il était en prison, il va connaître les geôles de l'armée pendant plus de 75 jours pour son absence. En fait, il était absent, du coup, il va connaître la prison deux fois. Et il va se faire voler ses affaires de là où il était à l'armée. Et du coup, c'est là où il va commencer à basculer aussi. Donc, il va déserter et plutôt qu'être envoyé dans une compagnie disciplinaire. Et du coup, après l'armée, il va redevenir plombier, ce qu'il appelle déboucheur de bidets. Donc les bidets, c'est un truc vraiment très particulier. C'est ces sortes de baignoires pour les bourges, en fait.
Toutes petites baignoires.
Toutes petites baignoires pour les vêtements, pour les enfants.
Si c'est pour laver les pieds.
On sait pas, en fait.
Ouais, on sait pas à quoi ça sert.
Quoi. Bon, bref, c'est un truc qu'il y a que dans les appartes de bourges. Et lui, il débouchait les bidets. Donc voilà, c'était son métier. Et il a arrêté pour un cambriolage à Nice en 1960. Mais il arrive à s'évader du commissariat. Il est arrêté par une dénonciation. Il est à nouveau arrêté pour une nouvelle dénonciation pour un cambriolage à Marseille la même année. Du coup, il va au Baumettes, puis à Aix, puis il retourne au Baumettes. Là, il fait le CNO, le Centre National d'Orientation de Fresnes, qui décide de l'envoyer à la centrale de Loos. Et donc, c'est sa première incarcération, longue incarcération, la deuxième après celle de Rion. Et il sort en 1965. Donc, de 60 à 65, il fait déjà 5 ans de prison.
Il disait qu'un peu la première incarcération, c'est un peu un tournant dans sa vie de voir aussi les conditions de détention qui sont en centrale. Quoi.
C'est là où il rencontre en fait les autres gens de sa même condition. C'est là où il commence à prendre conscience qu'il n'est pas le seul dans sa pensée de révolte d'adolescence. il commence à avoir l'idée qu'il appartient à un groupe social qui est réprimé en allant en taule. Et donc il sort en 65, il participe en mai 68 à la prise de la Sorbonne avec les ouvriers. Bon, il part vite parce qu'il est vite déçu des étudiants. Et du coup, ben, il décide de recambrioler. Et donc en décembre 68, il est arrêté pour une tentative de cambriolage.
Ouais, ça, il croit un peu en mai 68, et puis il se rend compte très vite compte dans les discussions avec les étudiants que, bah, que ça passe pas. Et en fait, il décide de retourner, il dit bah, la révolution c'est pas maintenant, donc il retourne cambrioler. Et il prend 4 ans, donc en fin 68, il prend 4 ans. Il passe aux assises pour crime contre la propriété. Il est d'abord à la santé, et ensuite il est à la centrale de Melun. Et on peut écouter un autre extrait là de, où il parle de la centrale de Melun.
Et je me suis retrouvé à Melun. Et à Melun, évidemment, moi, Melun, je fais partie de ceux qui, évidemment, revendiquaient politiquement. J'ai commencé à demander des congés payés pour les détenus, parce qu'on n'a pas de congés payés. Vous travaillez 20 ans en prison, vous n'avez jamais de congés payés. La sécurité sociale pour les familles, la sécurité sociale pour les certificats de travail et la sortie de prison. Parce qu'on en avait besoin. Pour moi, je considère qu'on travaille en prison, il n'y a pas lieu qu'on ne soit pas considéré comme des travailleurs ordinaires. La syndicalisation, enfin bref.
Donc voilà, il se retrouve en centrale à Melun et avec un peu des revendications et des velléités d'organisation, et il essaye d'organiser un peu des trucs avec les détenus là-bas. Il commence à correspondre avec Michel Foucault. Il faut dire que en fait à l'extérieur, il y a les en fait la queue de comète de mai 68, un peu une queue de comète de mai 68. Il y a plein de militants qui se font incarcérer, c'est des gens qui normalement vont pas en prison. Des bourgeois, encore une fois, des militants qui se retrouvent en prison, qui découvrent tout un monde. Il y a encore un peu l'opposition entre... Enfin, c'est des années où il y a encore un peu l'opposition entre détenus politiques et droit commun. Et donc, il y a un peu dans queue de comète de tout ça, il y a la création du groupe Information Prison, qui est fait par différents... Il y a un peu des avocats, des intellectuels, des psychiatres, des docteurs à l'intérieur de ce groupe, qui ont un peu l'envie de voir qu'est-ce que c'est que la prison, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est la matérialité de la prison. Donc en fait, ils commencent à faire un peu circuler des sortes de questionnaires, un peu comme des enquêtes ouvrières. On est encore là, c'est encore tout le truc Mao, mai 68, machin. Ils font comme des enquêtes ouvrières qui font circuler, qui font rentrer au parloir et par les détenus, au parloir, par les familles des détenus, par les psychiatres, tous les gens qui rentrent en prison. Et ça marche, les gens qui rentrent en prison, c'est-à-dire les gens qui travaillent en prison. Et en fait, ils ont quand même pas mal de retours de ces questionnaires, ils en font un peu des trucs. Le GIP, il est créé en 71, il y a un texte d'intention là un peu célèbre qui est raconté par Michel Foucault. Donc ils font tous ces questionnaires. Vraiment un truc sur les conditions matérielles de la prison. C'est pas du tout un truc intellectuel, machin. Ils sont vraiment sur des trucs, des faits, genre est-ce que vous mangez à votre faim, est-ce que vous avez froid. C'est des trucs très très sur les conditions matérielles de détention. Et ça marche pas mal, et ça fait un peu de l'agitation, comme c'est quand même pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des journaux, des trucs comme ça. Donc ça fait quand même un peu d'agitation médiatique. Et en fait, suite à ça... pas forcément lié à ça, mais dans la continuité de ça, dans l'hiver, par exemple, l'hiver 71-72, c'est un moment où il y a pas mal de révoltes en prison. Il y a l'affaire des Collines Noël, ce qu'on appelle l'affaire des Collines Noël, c'est le ministre de la Justice qui veut interdire à un moment les Collines Noël, qui sont un peu une des seules manières de faire rentrer de la bouffe tranquillement au parloir. Bon, enfin, il y a plein de trucs qui font qu'il y a plein de révoltes à ce moment-là. Et Livrosé, lui, qui commence à correspondre avec Foucault, il crée en parallèle avec d'autres personnes le comité d'action des prisonniers, le CAP, qui au départ est une sorte de syndicat, ce qu'on a vu à Melun là, qu'il essaye de s'auto-organiser, et une sorte de syndicat. Et peut-être on peut écouter l'extrait suivant où il raconte un peu tout ça.
Moi je confirme que le pauvre a le droit de voler le riche. Voilà. Si on se révolte de cette manière-là, c'est ce que les libertaires appellent la récupération individuelle. Faute d'attendre le rançoir, eh bien on se sert. Et je vous garantis qu'il y a beaucoup de... Moi d'ailleurs, je suis sorti de ma misère matérielle comme ça. Hein. La réforme des prisons, c'est quelque chose qui ne suffit pas. C'est pour ça que nous avons créé le comité d'action des prisonniers. Le comité afghan des prisonniers, c'est issu du GIP, groupe d'information prison, qui avait été fondé par Michel Foucault, par Jean-Marie Domenac et quelques intellectuels de l'époque. Et quand je suis sorti de prison en 1962, je correspondais déjà avec Michel, avec Foucault, et on échangeait du courrier, puis passait sous le manteau, il fallait payer très cher pour faire passer une lettre, évidemment. J'écrivais dans les journaux sous un faux nom à l'époque, et pour dénoncer la situation carcérale. Et donc, je sors de prison. Je téléphone à Foucault, après avoir échangé du courrier, donc je téléphone à Michel, et je lui dis, ben Michel, ça y est, je suis sorti. Ah, tu es sorti, bon, je sors, et puis il me dit, viens, viens à la maison. Donc, je vais chez lui, on discute, et vous devrez, et puis, j'ai dit, moi, il y en a marre de ces gens qui n'ont pas fait de prison et qui parlent de la prison. Je dis, nous, on a envie de créer un comité qui soit essentiellement composé de détenus et qui ait une vision globale du système et non pas simplement carcéral. On n'a pas envie spécialement d'aménager les prisons. Une prison, ce n'est pas aménageable. La société est aménageable. Et c'est elle qui entraîne les gens en prison. Les injustices sociales entraînent les gens en prison.
Voilà, donc c'était un petit extrait de la pensée de Serge Livrosé, qu'on le rappelle. Donc il y a un des fondateurs du CAP, Connecté d'Action des Prisonniers, qui c'est une sorte de syndicat d'essayer que les prisonniers s'organisent entre eux sur leurs conditions. Et principalement, ce qu'ils ont fait, c'est quand même un journal où il y a 67 numéros, ce qui est super bien, qui sont tous scannés et disponibles sur le site archiveautonomie.org, archive au pluriel, autonomieautonomie.org. Ils sont tous disponibles, sauf le premier, je crois. C'est un journal qui va durer de 72 à 80, qui est un peu l'organe de la voix des prisonniers. Et voilà. On peut passer un peu à voir en gros sa pensée.
Un truc qui est déjà central dans sa pensée, c'est que aux yeux de Serge Livrosé, il y a n'importe quel pouvoir en fait doit se combattre parce que tous les pouvoirs ils sont liés et notamment on peut l'écouter tout de suite. En fait tous les pouvoirs ont continuellement attaqué la vie de Serge Livrosé.
Moi, je ne dis pas merci à la société, je ne dis rien du tout. Ce que je constate, c'est que chaque fois que je me suis trouvé confronté à un pouvoir quelconque, qu'il soit carcéral, judiciaire, économique, hospitalier ou autre, ou même religieux, je me suis trouvé confronté à des gens qui voulaient s'emparer de mon esprit.
Et moi, je pense que cet extrait il est assez important dans la mesure où ça permet à la fois de comprendre que en fait quand on est dehors, il fait sens de lutter contre la prison parce que en fait la prison est un rouage essentiel de tous les pouvoirs auxquels on est confronté toute notre vie, notamment parce que en fait les autres pouvoirs nous amènent en prison. Le pouvoir économique font que en fait c'est les pauvres qui sont envoyés en prison, etc. Et de l'autre côté, je trouve que ça permet aussi de rappeler qu'en fait, à l'intérieur, quand on est en prison, il n'y a pas que le pouvoir carcéral qui s'impose aux prisonniers. Il est impossible, par exemple, d'avoir des soins, accès aux soins en prison, et qu'en fait, tous ces pouvoirs-là qui s'attaquent aux gens qui sont en prison, qui risquent d'arriver en prison, quand ils sont en prison, s'attaquent encore plus à eux. Et donc, du coup, quand ils parlent des pouvoirs carcéraux, etc., et en fait, il y a aussi le pouvoir de l'hôpital, etc., qui va détruire la vie des prisonniers. Mais en vrai, la question centrale de la pensée de Serge Livrosé, c'est pas exactement ça, c'est surtout en fait la question du potentiel de révolte chez les prisonniers. En fait, que la plupart des prisonniers sont des personnes qui sont pauvres et qui ont en elles un potentiel de révolte, mais il explique mieux que moi.
Je me suis aperçu en fait qu'il y avait un potentiel de révolte à l'intérieur des prisons qui était considérable. Tout était possible, de manière qu'il y ait, à notre avis, beaucoup moins de voleurs. C'est-à-dire que nous, on part du fait que 95% des gens qui vont en prison, ce sont des gens très pauvres, fils d'ouvriers qui habitent Sarcelles et compagnie, ouvriers eux-mêmes. Donc c'est une analyse de fort simple qu'on faisait, et je me suis dit, si moi j'ai fait ce cheminement, je vois pas pourquoi les autres ne le feraient pas.
N'oublions pas que les voyous, qu'on le veuille ou non, sont en résistance armée ou non, ou armé psychologiquement contre la société dans laquelle ils se trouvent. Ils se heurtent non seulement à la police, mais aux braves citoyens. Et ils vont voler de l'argent, donc ils sont en guerre ouverte.
On tient un discours qui est antagoniste d'un certain pouvoir injuste et qui est antagoniste aussi de l'analyse que font certains hommes de gauche traditionnels qui croient voir dans le voleur ce que la bourgeoisie leur a appris à voir, en fait. Nous, on part du principe qu'un type qui va en prison, à la limite, ça peut être normal. Deux, ça peut être à la limite normal. Mais quand il y en a 100 000 par an, c'est plus un problème d'individu, ni un problème de chromosome, c'est un problème de société. C'est plus un hasard, 100 000 gars.
D'ailleurs, la société n'y trompe pas. À partir du moment où tu peux être tout ce que tu veux, tout, tout, tout. Mais dès l'instant où tu t'indignes, où tu te révoltes, tu vas en prison. On t'envoie en prison. Tu peux faire comme tu veux, tu vas en prison. Et donc, ça veut dire que le système, quel qu'il soit, aujourd'hui, ce qui craint le plus, c'est celui qui se révolte, c'est celui qui s'indigne. Les autres, ils s'en foutent. Ils peuvent crever. Je pense que nous avons été les premiers, sinon les seuls, à exprimer l'idée que tous les prisonniers sont politiques. Et ça, ça a plu à Foucault. Cette idée fondamentale, selon laquelle la pauvreté étant politique, issue, il dit, les délinquants alimentaires, moi je les appelle comme ça, hein, pour simplifier, étaient des politiques. Ils s'opposaient au système.
Voilà, bon, je pense qu'il explique beaucoup mieux que moi, je vais reformuler ce qu'il vient de dire, mais en gros, ce qui est central dans sa pensée, c'est ça, et ça permet de comprendre pourquoi il a passé sa vie à la fois à comprendre que stratégiquement, il est utile de penser que la révolte peut partir de la prison, qu'en fait, il y a un potentiel de révolte chez les prisonniers, mais aussi qu'en fait, on ne peut pas lutter contre la prison de manière politique, contre la société de manière politique sans la prison, puisque la prison est politique. Tous les prisonniers sont politiques. Que c'est la pauvreté qui les a amenés à l'intérieur et que du coup, on ne peut pas lutter contre la société et ses inégalités sans lutter contre la prison. Malheureusement, il constate aussi qu'il a un peu raté d'une certaine manière dans la mesure où il n'a pas réussi suffisamment à faire comprendre que c'est ça. En fait, c'est lutter contre les raisons qui amènent les gens en prison qui étaient centrales dans sa pensée. Il essayait d'aller plus loin que juste lutter contre les conditions de détention. Il explique lui aussi assez bien.
Je lui ai apporté l'analyse des raisons pour lesquelles ces choses-là se produisaient. Et c'est ça qui l'a intéressé, Foucault, finalement. Parce que, pour le reste, il avait des informations de détenus qui étaient incarcérés à ce moment-là et de ceux qui l'avaient été et qui ne l'étaient plus. Ces informations-là, elles circulent toujours. Aujourd'hui, ce dont on se plaint en prison, ce ne sont pas les raisons pour lesquelles on va en prison, pourquoi ce sont toujours les mêmes qui sont condamnés à devenir éventuellement des délinquants. Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est la commisération, c'est la compassion. C'est, oh, le pauvre, il ne mange pas sa faim. Oh, le pauvre, il n'a que 600 euros par mois pour vivre. Mais ce n'est pas ça qui est intéressant. C'est pourquoi moi j'ai 600 euros par mois pour vivre, alors qu'il y en a qui ont 600 millions. Elle est là la question. C'est ça l'important. C'est pas le fait que j'ai que 600 euros et qu'on me donne à manger pour se substituer à ce que la société me doit. Et ça, je crèverai à n'importe quel âge, je serai toujours dans cette dialectique. C'est insupportable. Et c'est d'autant plus insupportable que les types le supportent.
Donc encore une fois, c'était la voix de Serge Liffrosé qu'on a abondamment pillé dans le film de Nicolas Drolk, La mort se mérite. On voit Serge Librozé, on l'entend parler à différentes époques de sa vie. C'est vrai qu'il y a des moments où il est un peu, pas vraiment défaitiste, mais un peu déçu en disant « Bon, tout ce que j'ai entrepris, en fait, ça a servi à rien. » Il est un peu défaitiste comme ça, enfin un peu désabusé sur la société. Mais en même temps, c'est assez étonnant parce que paradoxalement, il continue à se battre jusqu'à la fin de sa vie contre la justice, contre la société, pour une justice plus juste. Ça, on pourra en discuter dans une autre émission de la justice plus juste, hein, Joël ?
Ah ouais.
Ok. Donc tout ça pour vous rappeler que voilà, Serge Librozé est mort il y a quelques jours. Il sera enterré bientôt la semaine prochaine. On s'est servi un peu pour préparer l'émission encore une fois du film de Nicolas Drolk, La mort se mérite, mais aussi de l'autre film de Nicolas Drolk qui s'appelle Sur les toits, qui fait des très bonnes revues des différentes, surtout des révoltes qu'il y a eu dans l'hiver 71 à Toul et à la prison de Charles III à Nancy. On s'est servi bien sûr du livre principal de Serge Librozé qui s'appelle « De la prison à la révolte » qui a été écrit en 72 quand il était encore incarcéré. Et Serge Librozé, il a aussi écrit d'autres essais, notamment « Lettres d'amour à l'enfant que je n'aurai pas », c'était pas mal, et plusieurs romans noirs. On s'est servi du livre de Anne Guérin qui s'appelle « Prisonnier en révolte » qui est édité chez Agon, qui est un très très bon livre sur les révoltes des prisons. Et aussi du livre de Christophe Soulier, où c'est que j'ai noté la référence ? Attendez, Christophe Soulier, qui écrit un livre qui s'appelle « Liberté sur parole ». Voilà, contribution à l'histoire du Cap, aux éditions Analys. Là, pour l'émission, c'est fini aujourd'hui.
On voulait donner deux, trois petites infos rapides, ouais. Très rapides.
Encore parler une troisième fois pour la troisième semaine consécutive de Alfredo Cospito, qui est maintenant à son à peu près 43e jour, je pense, de grève de la faim. Il y a eu une audience jeudi dernier, le 1er décembre, qui était une audience qui devait décider de la continuité de son placement en régime 41 bis. Je vous renvoie à l'émission de la Courte Échelle il y a deux semaines qui explique un peu ce système italien d'isolement. Donc l'audience a eu lieu le 1er décembre et le tribunal a 12 jours pour statuer, donc on attend la réponse. Et il y a une autre audience demain, le 5 décembre, sur le fond de l'affaire, sur l'affaire Scriptamanent, et qui décidera un peu de vraiment Alfredo Cospito reste en perpétuité conditionnelle. Ah, on a oublié les deux derniers extraits de Livrosé. Ah oui, ben on va mettre l'extrait sur comment il aimerait qu'on le voie une fois qu'il est mort, ça tombe bien, c'est l'avant-dernier.
Mais si un jour on parlait de moi quand je serais mort, j'aimerais mieux qu'on en parle comme d'un type qui était irréductible, casse-couille, et qui n'a jamais changé d'idée depuis l'âge où il s'est révolté pour la première fois, à 15 ans jusqu'à aujourd'hui, 75. Il y a beaucoup de mensonges qui ont été dits sur moi, mais ça, on n'a jamais pu le dire. On n'a jamais pu dire, ouais, Livrosé, il pensait blanc, et puis tout à l'heure, il a dit noir. Moi, personne ne peut dire ça. Et moi, je suis contre le capitalisme, je suis contre le libéralisme. Ça fait 60 ans. Ça fait 60 ans que j'ai compris qu'on était en train de m'entuber. Donc, mes adversaires, je les connais et je me battrai jusqu'au bout contre eux.
Yes. Non, je ne vais pas le dire quand même. Mais en vrai, il a continué à se battre, effectivement, jusqu'à la fin. Donc la courte échelle, c'est fini pour ce soir. On va se retrouver donc dimanche prochain à 19h30. On va écouter le dernier extrait pour se quitter.
Et le CRA de Nîmes.
Le CRA de Nîmes, il y a rendez-vous le samedi 17 décembre. On donnera plus d'infos la semaine prochaine.
Après l'extrait, on écoutera un morceau de Osgang, Bonne Conduite, pour finir l'émission.
Et donc à la semaine prochaine.
Bye bye.
Ciao.
Ah non, je suis dans le mauvais ordre.
Je vais mourir et je voudrais qu'il se passe ça. Par exemple, moi, dans mes fantasmes à la con, j'aimerais que beaucoup d'anards, qu'ils aillent faire la chaise, Livrosé, tu vois. Comme ça, un fantasme à la con, mais ça me ferait plaisir. Mais ça me fait plaisir parce que je vis. Le jour où je serai mort, ils peuvent ne pas venir, j'en aurai rien à foutre.
licencié, sois dansier, c'est l'essentiel. N'essaye même pas de penser, fais juste partie de la clientèle. C'est sur toi que les flics s'entraînent, les petits qu'ils contrôlent et toujours à qui ils s'en prennent. Et s'ils veulent, tu bouffras des pissenlits allongés sous des chrysanthèmes, comme ça que les puissants t'aiment. Pour gommer ce que t'incarnes, on te braque sans armes. Tu tiens bien, t'es ton propre gendarme. Dans ta tête, c'est la prison ferme, c'est la mise en berne. On t'a tué, on t'a mis en terre. Si tu dis que tu vis l'enfer, ils te répondront, c'est du spectacle, de la mise en scène. Ils t'éclairent de leurs mille lanternes. Ils décident, tu la fermes ou tu seras interdit d'antenne. Bonne conduite, bonne conduite. Ils te font la bonne conduite. Bonne conduite, bonne conduite, bonne conduite. Que l'on déplore, d'une secte de vétards, tu fais tâche dans le décor. Pas droit à un écart, t'es fliqué dans les transports. T'es noir, on veut voir tes poches et ton passeport. Respecte le brassard, respecte le drapeau. Reste dans ton enclos pour cafard et puis crapaud. Le monde est un sens unique, ils votent pour une seule tunique. Déteste ton boubou, ton voile sur la voie publique. T'as les os qui craquent sous les coups de la PAC. T'es chanceux, t'es en vie, c'est un vrai miracle. Tu n'es qu'un bisec, que ces bords dissèquent. Y'aura pas de pare-feu, on t'éteint direct. On te croit inapte, on te veut inerte. C'est soit tu t'adaptes, soit tu signes ta perte. Il existe une norme, tu dois juste l'admettre. Il existe une norme et tu dois juste l'admettre.